Bonsoir, bienvenue dans votre bulletin géopolitique pour la semaine du 29 mai au 4 juin 2025. Le premier bulletin du mois, donc le bulletin en accès libre. Commençons par avec le Moyen-Orient où la semaine dernière, la Turquie et les forces démocratiques syriennes ont engagé des discussions directes sous la médiation des États-Unis, marquant une première dans leurs relations. C'est pour parler, rapporté par Middle East Eye, ont réuni des responsables de niveau intermédiaire pour aborder des enjeux cruciaux pour l'avenir de la Syrie, le sort des détenus de l'État islamique, l'intégration des forces démocratiques syriennes dans la nouvelle armée syrienne unifiée sous l'autorité de Damas et la gouvernance future des Kurdes. Ces négociations coïncident avec le retrait progressif des forces américaines de Syrie. Le 2 juin 2025, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a signalé un retrait soudain et significatif des troupes des bases américaines d'Al-Omar et de Conoco dans la province de Deir ez-Zor, entamée le 18 mai et accélérée récemment avec une intensification des opérations aériennes de la coalition. Le 22 mai 2025, le président Erdogan a insisté sur l'importance de respecter l'accord historique entre la Syrie et les forces démocratiques syriennes, signé le 10 mars dernier entre le commandant des forces démocratiques syriennes Mazloum Abdi et le président syrien Al-Ahmed al-Shara. Cet accord prévoit notamment la fusion des institutions administratives et militaires et la protection des droits des Kurdes dans un cadre unifié. Le 2 juin 2025, à Ankara, la Turquie et la Finlande ont signé un protocole d'accord visant à renforcer leur coopération dans l'industrie de défense, marquant un jalon important pour intensifier leur collaboration au sein de l'OTAN, notamment dans la production conjointe et l'échange de technologies. L'accord, qui a été paraphé par le chef de la présidence turque de l'industrie de défense, Haluk Gorgun, et Oli Rutu, directeur général de la politique des ressources et directeur national de l'armement de la Finlande. Cet accord donc cherche à promouvoir la production partagée, le transfert de technologies et le renforcement des capacités des deux nations. Il intervient alors que, à la suite d'un processus d'adhésion compliqué à l'OTAN de la Finlande, dans lequel la Turquie a eu un rôle central. En effet, au début, j'en avais parlé, c'était dans les premiers bulletins sur la chaîne, la Turquie était réticente à l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'Alliance et a traité les deux pays différemment. Le 30 mars 2023, le Parlement turc avait ratifié l'adhésion de la Finlande, dernier membre à l'approuver, avant de valider celle de la Suède quelques mois plus tard. L'aval préalable donné à la Finlande a été perçu alors comme une tactique stratégique. Selon les analystes, la Finlande, n'ayant pas imposé d'embargo officiel sur les armes à la Turquie, contrairement à la Suède, bénéficiait d'une image plus positive dans le pays lors des pourparlers. Certains observateurs estiment qu'Ankara a pu chercher à distinguer les deux nations en particulier pour obtenir des concessions supplémentaires qui se manifestent aujourd'hui. Dans une interview au Jewish Journal, le président syrien Ahmed al-Shara a esquissé les bases d'une possible relation nouvelle avec Israël, rompant nettement avec la rhétorique habituelle de Damas sur ce sujet. Il a indiqué « Il faut mettre fin à l'ère des bombardements et de représailles incessants. Aucune nation ne peut prospérer sous un ciel empreint de peur. » Et de manière inattendue, il a évoqué des ennemis communs aux deux pays, laissant entendre une possible coopération sur des enjeux sécuritaires régionaux. Mardi soir, cependant, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a désigné le président syrien comme directement responsable après que deux projectiles tirés depuis la Syrie ont atterri en territoire israélien sans causer cependant de dommages selon l'armée. Mercredi, la Syrie a rejeté toute implication dans les tirs attribués à Damas par Israël et pointé du doigt des acteurs visant à déstabiliser la région selon l'agence de presse officielle syrienne. Concernant les allégations de tirs visant le côté israélien, nous n'avons pas été en mesure de confirmer la véracité, a indiqué le bureau du ministère des Affaires étrangères. Nous considérons que les divers acteurs cherchent à perturber la stabilité régionale pour leurs propres intérêts. Mardi 3 juin, 27 personnes ont perdu la vie dans le sud de la bande de Gaza lorsque les soldats israéliens ont tiré à proximité d'un centre d'aide humanitaire soutenu par les États-Unis situé dans cette région. L'armée israélienne a annoncé en soirée l'ouverture d'une enquête sur ces tirs mortels qui était déjà intervenu la semaine dernière, vous en souviendrez, j'en avais parlé dans le bulletin. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné ces actes, qualifiant les pertes humaines d'inconcevables, précisément 2 jours après le dernier incident, qui avait fait 31 morts selon les secours palestiniens. De son côté, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a dénoncé des crimes de guerre. C'est l'expression qu'il employait. D'après une information publiée mercredi par le Wall Street Journal, l'armée libanaise, avec l'appui des renseignements israéliens transmis via les États-Unis, aurait démantelé la majorité des postes et stocks d'armes du Hezbollah dans le sud du Liban, opération qui a été accueillie favorablement par les autorités israéliennes et américaines. Selon cette même source, qui s'appuie sur des déclarations de responsables arabes, l'armée libanaise n'a pas achevé sa mission dans le sud. Elle doit encore poursuivre le plan de désarmement de l'organisation terroriste, visiblement ce plan est en bonne voie et le désarmement du Hezbollah est décidément assez rapide. Ce mercredi 4 juin, le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, a jugé que la proposition américaine concernant un accord sur le nucléaire allait à l'encontre des intérêts nationaux de l'Iran. Il a déclaré, je cite, « La proposition soumise par les Américains va totalement à l'opposé du slogan « Nous pouvons » en référence au principe d'indépendance de la révolution islamique de 1979. « L'Iran n'a pas besoin du feu vert des États-Unis pour prendre ses décisions », a-t-il encore affirmé, et « L'indépendance du pays signifie ne pas attendre l'aval de l'Amérique ou de ses semblables, ni craindre leurs interdictions ». Il a conclu que les États-Unis n'avaient aucun droit de regard sur l'enrichissement d'uranium par l'Iran, puisque je rappelle que la position de l'Iran depuis un moment dans ses négociations avec les États-Unis, c'est on est d'accord pour ne pas doter de l'arme nucléaire, mais on n'est pas d'accord pour arrêter l'enrichissement. Forcément, ça bloque, puisque ce sont les deux lignes rouges de cet accord. Donc, la position de Khamenei signifie en fait un rejet sur la proposition d'accord telle qu'elle avait été formulée par les Américains, alors que nous sommes arrivés au terme du délai de 60 jours qui avait été avancé par Donald Trump. Est-ce que celui-ci va aller vers la manière forte ou est-ce qu'il va encore reculer devant l'obstacle ? L'avenir nous le dira. Mardi, le premier ministre libyen Abdul Hamid Dbeibeh a dévoilé une initiative politique destinée à résoudre la crise qui persiste dans le pays, incluant une restructuration de son gouvernement. Lors d'une réunion du cabinet à Tripoli, il a indiqué que cette initiative, qui sera détaillée dans les prochains jours, repose sur trois axes principaux : restructurer le gouvernement, prévoir la création d'une plateforme nationale d'information en ligne visant à refléter la volonté populaire et à permettre aux citoyens de poser des questions et d'interagir avec le gouvernement. Et le troisième axe consistera à mettre en place un mécanisme de sécurité concret pour assurer des élections sûres et crédibles, tout en éliminant tout prétexte à la formation d'un gouvernement parallèle, a-t-il précisé. Il a également évoqué les récents troubles à Tripoli, marqués par des heurts armés entre forces gouvernementales et milices non identifiées, j'en ai parlé les dernières semaines. Il a dit, je cite, « Nous avons conduit une opération de sécurité précise et disciplinée contre un groupe hors la loi avec des pertes limitées. Cette opération constitue un véritable point de départ pour que l'État réaffirme son autorité sur la capitale sans partager le pouvoir avec des forces parallèles. » On part du côté du Maroc où un nouveau virage diplomatique marque la question du Sahara occidental et est à nouveau un revers pour Alger qui, dont de toute façon la politique internationale consiste surtout à râler et à se victimiser quand les gens ne font pas ce qu'ils veulent mais sans être très capable de mener des opérations de séduction. Et c'est ainsi que dimanche à Rabat, le Royaume-Uni a officiellement soutenu le plan d'autonomie marocain pour le territoire, le qualifiant de base la plus crédible, viable et pragmatique pour une résolution durable du différend. En adoptant cette décision et cette position, Londres abandonne sa traditionnelle neutralité et s'aligne sur la position de certains alliés occidentaux, notamment la France, au risque donc de provoquer la colère d'Alger, mais je ne sais pas si les Britanniques sont très très soucieux de la colère d'Alger. Jeudi 29 mai, 12 pays africains se sont réunis en Ouganda dans le cadre du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la région. Et d'une voix unanime, ils ont condamné les agissements du mouvement du 23 mars, le M23, qui a envahi le pays. Et parmi ces nations qui ont condamné le M23 figurait le Rwanda, dont je rappelle qu'il est accusé de soutenir ce groupe armé, et qui a pu trouver peut-être là une occasion à peu de frais d'essayer de maintenir qu'il ne soutenait pas justement le M23. Ce qui est vraisemblablement faux. Au Sahel, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM émerge comme le groupe djihadiste armé le plus influent de la région. Au Burkina Faso, il a revendiqué des attaques mimées contre des positions militaires et la ville de Djibo, affirmant avoir tué 200 soldats. Au Mali, il a revendiqué plusieurs assauts récents, notamment celui de la base de Djoura dans le centre, où 40 soldats ont péri le 23 mai. Vendredi dernier, le groupe a annoncé avoir pris le contrôle d'une base à Sira Corolla. Lundi 2 juin 2025, le groupe donc de soutien à l'islam et aux musulmans a lancé une double attaque à Tombouctou, ciblant un camp militaire et l'aéroport situé à 2 km de la ville. 14 assaillants auraient été abattus par l'armée malienne et ses alliés russes, sans annonce officielle de pertes militaires ou civiles. Cet assaut suit une autre attaque d'envergure la veille contre le camp de Boulkessi, dans le centre du Mali. Selon des sources sécuritaires, au moins 30 soldats maliens y ont été tués, bien qu'un élu local sous anonymat ait évoqué au moins 60 militaires tués. Donc la menace djihadiste grossit de plus en plus dans la région. Aux États-Unis, sommes-nous face à la rupture entre Donald Trump et Elon Musk? Peu après avoir quitté, comme c'était prévu pour des raisons administratives, la direction du Doge, Musk s'est lâché sur le projet de loi de finances du Congrès voulu par Trump. Ce sera le sujet du prochain live, entre autres choses. Je citerai simplement le tweet qu'a fait Elon Musk. « Je suis désolé, mais je ne peux plus supporter. Ce projet de loi de dépenses du Congrès, massif, scandaleux et bourré de dépenses inutiles, est une abomination dégoûtante. Honte à ceux qui ont voté pour. Vous savez que vous avez eu tort. Vous le savez. » Voilà, ce sera donc, je disais, le sujet de notre prochain live de vendredi. Je fais ici une pause pour souligner que ce bulletin gratuit n'est que le premier du mois et que les autres sont, comme d'habitude, réservés aux souscripteurs selon les conditions disponibles sur Tipeee et en suivant le lien en description ou en cliquant sur le bouton « Rejoindre » sous cette vidéo YouTube. Le contenu gratuit ces derniers mois a 6000 spectateurs permanents sur la chaîne, c'est-à-dire ceux qui regardent la totalité du contenu gratuit, mais dont, en fait, 95% ne sont pas souscripteurs et ne font jamais de dons. Donc si vous appréciez mon travail, notre travail, et souhaitez qu'il continue, n'hésitez pas à faire un geste en soutien de la chaîne. Je vous en remercie. Nous revenons en Europe où mardi, l'Ukraine a rejeté les conditions de paix proposées la veille par la Russie lors des pourparlers à Istanbul, les qualifiant d'ultimatum irréaliste et incapable de mettre fin au conflit. On sait que c'est toujours la même chose. En gros, donnez-nous ce qu'on n'a pas encore réussi à prendre. Sans vous battre, en particulier les quatre régions qui ont été annexées, désarmement, etc. L'Ukraine a revendiqué le même jour, et après qu'il y ait eu les frappes sur les aérodromes et qui ont amputé les capacités stratégiques de la Russie, hein, je renvoie au dernier live là-dessus, je ne reviens pas dessus en détail. L'Ukraine, donc, le même jour, mardi, a revendiqué une attaque à l'explosif contre le pont de Crimée, le pont de Kerch, structure déjà ciblée à plusieurs reprises par Kiev. Les services de sécurité ukrainiens ont déclaré avoir causé des dégâts sévères au pilier de l'ouvrage reliant la péninsule annexée par Moscou au territoire russe en utilisant plus d'une tonne de TNT. La circulation sur le pont a été temporairement interrompue, d'après le compte Telegram officiel du gestionnaire, qui n'a pas précisé la cause de cette fermeture d'environ 3 heures. Le Washington Post a rappelé que le pont de Crimée était une voie d'approvisionnement stratégique, mais aussi un symbole de l'occupation russe depuis le début de l'invasion à grande échelle lancée par la Russie en 2022. Le Kremlin, de son côté, a minimisé l'attaque contre le pont, niant tout dégât et se contentant de mentionner une explosion. Donald Trump, ce mercredi, a indiqué sur Truth Social avoir parlé par téléphone à Vladimir Poutine pendant 1h15, avoir parlé des récentes attaques sur les forces stratégiques russes et aussi certains autres échanges de coups entre la Russie et l'Ukraine ces dernières semaines. Donald Trump dit que ça a été une bonne conversation, mais qui ne permettrait pas de mener à une paix immédiate. Il dit que Poutine lui a indiqué qu'il devait répondre à l'attaque sur les aérodromes par l'Ukraine, mais il n'en dit pas plus. Et ensuite, il ajoute qu'il parle de l'Iran et il dit qu'ils ont aussi discuté de l'Iran, de la façon dont justement le délai, comme je le disais tout à l'heure, a fini de courir pour l'Iran et sur la nécessité de faire un deal. Et Poutine, semble-t-il, a réussi à en tout cas, lui a dit, est-ce qu'il a réussi à le promener, je ne sais pas. Au terme de ce message, on a un peu l'impression qu'il continue à se faire promener par Poutine, qu'il n'a toujours pas réussi à se mettre en tête que c'est ce que fait l'autre. Mais Poutine lui a dit que, voilà, qu'en gros, il l'aiderait à faire plier l'Iran en lui disant qu'il était d'accord avec lui, qu'il ne fallait pas que l'Iran ait l'arme nucléaire. voilà, ça n'annonce pas de changement rapide, malheureusement. Donald Trump met du temps à comprendre. Nous sommes toujours en Europe, pardon, où 1 million de réservistes allemands sont devenus injoignables. Il s'agit de jeunes ayant effectué leur service militaire avant 2011 et d'anciens soldats professionnels, dont 93 000 ayant servi dans des missions à l'étranger, notamment en Afghanistan. Leurs adresses et numéros de téléphone ont été supprimés des bases de données en raison d'une loi européenne et de réglementations nationales sur la protection de la vie privée. Il est donc impossible de connaître leur état physique, malgré leur formation et leur expérience, et de savoir s'ils seraient prêts à appuyer l'armée allemande en cas de nécessité, situation qualifiée de totalement folle cette semaine par le président de l'association des réservistes. Et tout ceci au moment et dans le contexte où Friedrich Merz veut faire de l'armée allemande la plus forte armée d'Europe. Comme je l'ai déjà dit, je ne pense pas que ce soit très réalisable parce que je ne pense plus les Allemands sont capables de véritablement faire une armée, encore une fois. C'était les Prussiens qui savaient se battre et qui savaient commander les Allemands. Ils sont plus là. Et nouvel exemple du genre de problème qui peuvent se poser justement aux Allemands là-dessus. Aux Pays-Bas, la semaine dernière, Geert Wilders a lancé un ultimatum ferme à ses partenaires de coalition, entériner pleinement son plan anti-immigration en 10 points sous peine de voir le gouvernement s'effondrer. Ce projet audacieux prévoyait notamment la fermeture des frontières avec le renfort de patrouilles militaires, le rejet systématique des demandeurs d'asile à l'entrée du pays, la suspension du regroupement familial pour les réfugiés déjà reconnus, ainsi que l'expulsion des Syriens détenteurs de visa temporaire, arguant qu'une large partie de la Syrie serait désormais sûre. Le projet prévoyait aussi une politique d'expulsion automatique pour tout migrant condamné pour des crimes violents à caractère sexuel ou à caractère sexuel. Pas de soutien sur nos propositions sur l'asile, pas de révision de l'accord cadre, le PVV quitte la coalition, a-t-il finalement déclaré mardi 3 juin à la matinée. Privé de majorité, en effet, il a choisi de présenter le Premier ministre a choisi de présenter la démission de son gouvernement qui assurera la gestion des affaires courantes. De nouvelles élections législatives devraient être annoncées dans la semaine, plongeant les Pays-Bas dans une nouvelle phase d'incertitude politique. Le PVV domine actuellement la Chambre basse avec 37 sièges sur 150, mais les récents sondages lui attribuent environ 29 sièges, donc il risque plutôt d'y perdre dans une nouvelle élection qu'autre chose. D'après la Commission européenne, l'Italie a dépassé la France sur le plan économique, avec un revenu par habitant désormais supérieur à celui des Français, atteignant un peu plus de 40 000 euros par an. Il y a 5 ans, l'écart était encore de 10% en faveur de la France. Les Italiens ont également réduit de moitié leur retard sur le niveau de vie des Allemands et sur la moyenne européenne en général. Alors, ce sont des chiffres en réalité qu'il faut fortement nuancer, puisque d'abord, cette progression s'explique principalement par une croissance plus robuste en Italie depuis la crise du Covid, comparée à la France, sauf que ce redressement est en partie dû à l'importante aide européenne reçue dans le cadre du plan de relance post-Covid, avec plus de 120 milliards d'euros alloués à l'Italie, soit 4 fois plus que ce qu'a reçu la France, et c'est-à-dire qu'en fait, pour une partie, ce rattrapage italien s'est fait avec l'argent de la France, notamment. L'argent européen venant des poches françaises en bonne partie. Cependant, l'augmentation du revenu par habitant s'explique aussi par la baisse de la population qui est passée sous la barre symbolique des 60 millions d'habitants avec une diminution de 700 000 personnes au cours des 5 dernières années. Donc, en réalité, cette remontée de l'Italie se fait parce que leur population diminue et parce qu'ils ont bénéficié de beaucoup d'argent de l'Union européenne. Donc, ça donne pas en soi beaucoup d'infos sur les fondamentaux du pays qui sont quand même qui restent assez fragiles. La France, de son côté, maintient sa notation financière actuelle selon la décision de l'agence Standard & Poor's Global Ratings. Cette stabilité provisoire intervient malgré des préoccupations persistantes concernant le déficit public et la dette nationale qui n'ont pas connu d'amélioration significative depuis le dernier examen. La préservation de la note épargne à la France un revers symbolique supplémentaire mais ne règle pas les problèmes structurels. Hein, je vous rappelle que entre 2024 et 2025, on a encore une augmentation de la charge de la dette annuelle de 15 milliards. Donc ça va être compliqué. La Russie continue de générer des milliards grâce à ses exportations de combustibles fossiles vers l'Occident, selon des données finançant ainsi son invasion massive de l'Ukraine qui entre dans sa quatrième année. Depuis le début de l'offensive en février 2022, les revenus russes issus des exportations d'hydrocarbures ont dépassé de plus de 3 fois le montant de l'aide accordée à l'Ukraine par ses alliés. Des données examinées par la BBC révèlent que les alliés occidentaux de l'Ukraine ont versé davantage à la Russie pour ses hydrocarbures qu'ils n'ont fourni d'aide à Kiev, notamment les Européens. Les militants appellent les gouvernements d'Europe et d'Amérique du Nord à intensifier leurs efforts pour bloquer l'approvisionnement en pétrole et gaz russe qui contribue à financer le conflit avec l'Ukraine. D'après les résultats officiels du scrutin du 1er mai, Karol Nawrocki, le candidat indépendant, a remporté 50,89% des voix devançant Rafal Trzaskowski de la coalition civique, qui était le candidat centriste et pro-UE de Donald Tusk, du gouvernement de Donald Tusk, pardon. Le Karol Nawrocki a axé sa campagne sur la loi, l'ordre et la défense des valeurs traditionnelles polonaises, avec le soutien du Parti conservateur droit et justice PiS, qui était le parti du président conservateur sortant, Andrzej Duda. La victoire de Nawrocki assure la présence d'un président conservateur à la tête de l'État jusqu'en 2030 et prolonge donc l'influence du PiS malgré la perte de sa majorité parlementaire en 2023 après 8 ans au pouvoir. En Pologne, le chef de l'État joue un rôle notable en politique étrangère et de défense et dispose d'un pouvoir de veto législatif qui ne peut être contourné qu'avec une majorité des 3/5 au Parlement. Plusieurs réformes portées par Donald Tusk et son gouvernement pro-UE en place depuis 2023 ont été bloquées par Andrzej Duda, ex-membre du PiS resté fidèle au parti, et le seront donc probablement encore par Karol Nawrocki. Certains interprètent d'ailleurs l'échec de Rafał Trzaskowski, membre du parti du Premier ministre Donald Tusk, comme un rejet du programme du gouvernement de Donald Tusk lui-même. Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, alerte l'Asie sur une menace imminente de la Chine envers Taïwan. Lors d'un discours à Singapour face à des représentants des gouvernements asiatiques, le secrétaire américain à la Défense a affirmé que les États-Unis protégeraient l'île contre une agression chinoise. Il a toutefois exhorté les pays de la région à renforcer rapidement leurs capacités militaires. Alors l'information intéressante, bon, toujours que c'est imminent ou que ça va pas tarder autour de Taïwan. Non, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait que Pete Hegseth réaffirme que les États-Unis protégeraient l'île contre une agression chinoise, alors que on a beaucoup parlé d'une espèce de flottement ou d'une incertitude sur l'engagement américain depuis le début de la présidence de Donald Trump à protéger éventuellement Taïwan. Mais il semble que l'administration de Trump désormais ait réaffirmé cette volonté de protéger. Par ailleurs, au niveau des relations américano-chinoises, je vais vous lire telle quelle la traduction d'un tweet de Kash Patel, le nouveau directeur du FBI aujourd'hui, qui semble pas piquer des verres. Il dit la chose suivante. « Je peux confirmer que le FBI a arrêté un ressortissant chinois aux États-Unis qui aurait introduit clandestinement un agent pathogène biologique dangereux dans le pays. L'individu Yungin Jian est accusé d'avoir introduit clandestinement aux États-Unis un champignon dangereux appelé Fusarium graminearum, qui est un agent d'agroterrorisme pour effectuer des recherches à l'Université du Michigan où elle travaille. Ce champignon peut provoquer une maladie appelée brûlure de l'épi ou maladie du blé, une maladie, de l'orge, du maïs et du riz, entraînant d'importants problèmes de santé chez les humains et le bétail. Il est responsable de milliards de dollars de pertes économiques dans le monde chaque année. Des preuves indiquent également que Jian avait exprimé sa loyauté envers le Parti communiste chinois et avait reçu un financement du gouvernement chinois pour des travaux similaires sur ce pathogène en Chine. Le petit ami de Jian, Zhong Yongliu, également inculpé dans la plainte, travaille dans une université chinoise où il mène des recherches sur le même agent pathogène. Liu aurait d'abord menti, puis avoué avoir également introduit clandestinement du Fusarium graminearum aux États-Unis via l'aéroport métropolitain de Détroit, afin de pouvoir lui aussi mener des recherches à l'Université du Michigan. Les deux individus ont été accusés de complot, de contrebande de marchandises aux États-Unis, de fausses déclarations et de fraude au visa. Cette affaire est un rappel brutal que le PCC travaille 24 heures sur 24 pour déployer des agents et des chercheurs afin d'infiltrer les institutions américaines et de cibler notre approvisionnement alimentaire, ce qui aurait de graves conséquences, mettant en danger la vie des Américains et notre économie. Votre FBI continuera à travailler sans relâche pour se protéger contre cela. Donc c'est très intéressant. Ça, on va pratiquement... C'est une histoire de complot pour une éventuelle attaque biologique sur le sol américain par la Chine. Alors, c'est pas dit aussi directement que ça, on n'en est pas exactement là. Mais ça me paraît significatif. Ça dit quelque chose des rapports actuels de la Chine et des États-Unis et l'évolution assez clairement de la comment dire, des relations entre la Chine et les États-Unis, et surtout la possible utilisation, alors je dirais pas comme ni comme une arme, ni comme un casus belli, mais on se souviendra qu'au lendemain du Covid, en tout cas ça avait été ma certitude à ce moment-là, parce que c'était la première présidence Trump, et c'est avant que sa présidence soit encombrée par le Covid lui-même jusqu'à ce qu'il soit pas réélu. Il y avait la possibilité que justement le déploiement du Covid soit vu comme une forme de casus belli entre l'Amérique à l'époque de Trump et la Chine. Et il n'en avait rien été, mais bon, depuis, il a été l'hypothèse de la chute de la fuite de laboratoire, même si je sais que c'est apparemment toujours contesté, mais a pris du poil de la bête. Et aujourd'hui, donc, maintenant, il y a cette question éventuellement d'introduction d'agents pathogènes. Ça me paraît aller assez loin. Et c'est dans ce contexte aussi que, ces derniers jours, Marco Rubio a annoncé viser les étudiants qui avaient des liens avec le Parti communiste, et de bloquer leur capacité d'étudier aux États-Unis. Marco Rubio a indiqué, c'était le 28 mai dernier, vouloir révoquer activement les visas pour les étudiants chinois, notamment ceux ayant des liens avec le Parti communiste chinois. Donc, c'est un moyen aussi d'accréditer cette nouvelle politique d'hostilité, on va dire, vis-à-vis des étudiants chinois, dans le cadre des pressions avec ce pays. D'autant plus que Donald Trump, par ailleurs, a dit que les négociations vers un accord avec la Chine étaient à nouveau un petit peu bloquées, pour ce qui était de la question des tarifs. On reste en Asie avec dimanche 1er juin, la Cour suprême du Bangladesh a permis au principal parti islamiste du Bangladesh, le Jamaat-e-Islami, la conférence islamique du Bangladesh, de participer aux élections, levant ainsi une interdiction de plus de 10 ans qui avait été instaurée sous le régime de l'ex-premier ministre Sheikh Hasina. En 2013, la Haute Cour avait en effet interdit au Jamaat-e-Islami de se présenter aux élections, jugeant sa charte incompatible avec la constitution laïque du pays. Après la chute du gouvernement de Sheikh Hasina l'été dernier, le parti avait déposé un recours pour contester cette interdiction. Enfin, Corée du Sud, mardi 4 juin au matin, le dirigeant de centre-gauche Lee Jae-myung a été investi président de la Corée du Sud au lendemain de sa nette victoire lors d'une élection provoquée par la destitution de son prédécesseur. Après 6 mois de crise politique majeure, cet ancien ouvrier de 60 ans a remporté le scrutin avec 49,42% des voix contre 41,15% pour son rival de droite, Kim Moon-soo, qui a reconnu sa défaite dans la nuit selon les résultats officiels de la commission. Le poste de chef de l'État étant vacant depuis la destitution de Yoon Suk-yeol, Lee Jae-myung a été investi immédiatement après la validation de sa victoire, sans la période de transition habituelle. Le mandat présidentiel a débuté dès la confirmation du vainqueur à 6h21, c'est ce que la commission électorale a proclamé. La première journée de Lee Jae-myung en tant que président et chef des armées a commencé par un échange téléphonique avec le commandement militaire, suivi d'une visite traditionnelle au cimetière national où il s'est recueilli sur les tombes des anciens combattants coréens. J'attends de voir comment évoluera exactement la pratique de la fonction présidentielle. Je rappelle que, d'une perspective historionomique d'analyse de la Corée du Sud, l'affaire de Yoon Suk-yeol était un petit peu la glorieuse révolution, ou les journées de juillet 1830, si vous voulez, qui avaient mis fin à la Restauration et lancé la monarchie de juillet, c'est-à-dire la fin du processus de révolution nationale, dans lequel il devrait y avoir un abaissement de l'exécutif au profit du Parlement. Le fait que le président a été destitué va dans ce sens-là. On va voir quelle sera la pratique du pouvoir de Lee Jae-myung et si, à la fois dans la pratique mais aussi peut-être dans les institutions, des modifications sont apportées à la constitution coréenne. Voilà ce que j'ai trouvé de saillant et de significatif à retenir cette semaine. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux formats et en attendant, vous laissez pas faire.